www.radiocampusparis.com. J'ai du wow 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 wow. J'ai du wow wow wow. J'ai du wow 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 wow. J'ai du wow wow wow. J'ai du wow 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 wow. J'ai du wow wow wow. J'ai du wow 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 wow. J'ai du wow wow wow. J'ai du wow 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 wow. J'ai du wow wow wow.
Champagne de majorette compose une chanson.
J'ai du wow wow wow.
Mange-moi ta l'écurie pour l'écurie mon gris.
J'ai du wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que falatine.
J'ai du wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai du wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que falatine.
J'ai du wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai du wow wow wow.
M'envoie ta l'écurie pour écurer mon gris.
M'envoie ta l'écurie pour écurer mon gris.
Il me sape un pet foireux, m'en jeté dans l'entordu.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, ce que t'as que farlatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, ce que t'as que farlatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow wow.
Il me sape un peu de foireux, m'a jeté dans l'entordeux.
Il me sape un peu de foireux, m'a jeté dans l'entordeux.
Quand ma femme est arrivée, j'étais pas encore levé.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que falatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que falatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow wow.
Quand ma femme est arrivée, j'étais pas encore levé.
Quand ma femme est arrivée, j'étais pas encore levé.
Elle a pris un petit bâton, puis get up à la maison.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que falatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que falatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow 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 wow.
Elle a pris un petit bâton, puis get up à la maison.
Elle a pris un petit bâton, puis get up à la maison.
Elle m'avait assez battu, j'en avais attrapé le flux.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que farlatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que farlatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow 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 wow.
Elle m'avait assez battu, j'en avais attrapé le flux.
Elle m'avait assez battu, j'en avais attrapé le flux.
Quand ça avait au milieu de l'été, j'étais pas encore serré.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que farlatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que farlatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow 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 wow.
Quand ça avait au milieu de l'été, j'étais pas encore serré.
Quand ça avait au milieu de l'été, j'étais pas encore serré.
Quand ça venait d'entendre l'hiver, c'était encore plus clair.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que farlatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que farlatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow 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 wow.
Quand ça venait d'entendre l'hiver, c'était encore plus clair.
Quand ça venait d'entendre l'hiver, c'était encore plus clair.
Quand ça venait d'entendre du sucre qui m'ont pris pour faire une flûte.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que farlatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que farlatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow wow wow.
Quand ça avait entendu ceux qui m'ont pris pour faire une flûte.
Quand ça avait entendu ceux qui m'ont pris pour faire une flûte.
Si j'avais eu trois notes, j'aurais fait la plus forte.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que farlatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que farlatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow 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 wow.
Si j'avais eu trois notes, j'aurais fait de la plus forte.
Si j'avais eu trois notes, j'aurais fait de la plus forte.
Mais j'en avais rien qu'une, j'ai fait la plus commune.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que farlatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow wow wow.
Farandine, tu que t'as que farlatine.
J'ai dit wow wow wow.
Farandon, la guillebeau.
J'ai dit wow 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 wow. J'ai dit wow wow wow. J'ai dit wow.
Les charbonniers de l'enfer nous chantaient wow.
Merci Maurice. Alors voilà, Francine va nous amener dans le LIFI ou le LIFI. Je la laisse aller là, avec ça.
On va dire LIFI parce que ici on dit Wi-Fi.
Ouais, c'est vrai.
On fait qu'on wifi. Va dire LIFI. Ça va être, on va le franciser.
Parfait.
Que le LIFI soit, c'est un article qui est paru dans la presse plus du 12 mars 2018. Alors cette fois, j'ai été capable de dire la date correctement. Mathieu Perrault en est l'auteur. Un laboratoire d'informatique de l'UQAM accueille depuis le mois dernier la première installation LiFi à Montréal. Cette technologie permet de transmettre l'Internet par la lumière plutôt que par les câbles ou les réseaux Wi-Fi. Le LiFi est à la fois plus rapide, plus sûr et plus précis. C'est en apparence une ampoule Dell, comme il y en a ailleurs dans la pièce. Mais si on s'installe avec un ordinateur ou un téléphone sous cette lampe, avec un logiciel adapté, on peut utiliser l'ampoule pour accéder à l'Internet. C'est à notre connaissance la première installation à Montréal, dit Parik Burl, cofondateur et vice-président au développement de Global LiFi Tech. On a rencontré le responsable du laboratoire lors d'un séminaire de la Société des arts technologiques. Comme il teste d'autres technologies de communication, il était intéressé par le LiFi. Le laboratoire du professeur Igal Ben-David est situé au pavillon de la Faculté de gestion de l'UQAM, situé à l'intersection de Sainte-Catherine et Sanguinet. Un réseau LiFi de Global LiFi Tech a aussi été livré à la firme de télécommunications Ericsson à Saint-Laurent. Ericsson veut davantage travailler sur les aspects santé et sécurité qui sont possibles avec le LiFi. Par exemple, sur les combinaisons de pompiers, dit M. Burl. L'ABC du LiFi. Le LiFi est la version moderne du code Morse qui permettait aux navires de communiquer entre eux avec des phares. Les ampoules clignotent de manière imperceptible à l'œil humain. Comme la lumière ne traverse pas les murs pleins et que son intensité diminue beaucoup avec la distance, les informations transmises sont moins faciles à intercepter qu'avec le Wi-Fi, ce qui rend le LiFi particulièrement intéressant pour le milieu de la santé et pour les banques. Des chercheurs ont commencé à envisager de transmettre des informations sans câble par laser à partir des années 70, mais il a fallu attendre 2003 pour que des chercheurs japonais y arrivent. Beaucoup de firmes françaises travaillent sur des projets LiFi. En 2015, la chaîne de supermarchés française Carrefour a fait un projet pilote de géolocalisation des clients par LiFi avec la multinationale néerlandaise Philips dans un supermarché de Lille. Le laboratoire de l'UQAM, où est installée la borne LiFi de Global LiFi Tech, est utilisé par le professeur Igal Ben-David, spécialiste en gestion des opérations, pour tester les technologies des magasins de demain. On veut par exemple pouvoir envoyer des offres sur une marque de café à un client qui se trouve devant la section de cette marque dans les étalages, dit M. Ben-David. Pour cela, il faut être très précis au niveau de la géolocalisation du client, comme le permet le LiFi. On peut aussi aider le client à trouver les aliments sur sa liste d'épicerie, un peu comme les navigateurs des téléphones portables nous guident dans les rues. D'autres technologies basées sur la communication Bluetooth ou les puces capables de communication radio pourront aussi aider les commerçants, notamment par l'inventaire. Global LiFi Tech a aussi installé le mois dernier une borne LiFi au Technopôle de Repentigny, un centre de recherche appliqué pour les détaillants, indique M. Burl. Le premier produit grand public de Global LiFi Tech est la lampe MyLiFi Pro de la firme française OLEDCOM. Ça fait la luminothérapie, en plus de la connexion Internet par LiFi, explique Parik Burl. La vitesse de connexion est de 23 mégaoctets par seconde, mais c'est super sécuritaire. Les données ne voyagent pas à l'extérieur de la maison comme avec le Wi-Fi. Il s'agit d'une version professionnelle, mieux adaptée au marché nord-américain de la lampe MyLiFi d'OLEDCOM, selon M. Burl. MyLiFi Pro coûte 1 500 $ canadiens. Plus de 200 précommandes ont été faites au Canada et la livraison est prévue en juillet, selon M. Burl. Les ordinateurs devraient être équipés de capteurs d'Internet par LiFi d'ici 2 ans, selon lui. Pour le moment, on utilise des capteurs sur clé USB, comme pour le Wi-Fi au début. Ça va se faire avec l'introduction des réseaux de téléphones portables 5G de la 5e génération, parce qu'il y a des problèmes de compatibilité entre le Wi-Fi et le 5G. Pour ce qui est des téléphones portables, Les applications permettent d'avoir accès au réseau LiFi par l'entreprise des caméras, c'est ça, mais pas encore de manière bidirectionnelle. On ne peut que recevoir des informations, pas faire une recherche sur Google. C'est quand même fascinant. Dans la presse plus du 12 mars 2018, le LiFi.
Tout à fait fascinant. Ouf! Nous revoici en studio, Hélène Bédard au micro. Alors, je vais vous entretenir d'un très grand reportage que Noémie Mercier a fait dans la revue Actualité. C'est un reportage qui va s'étaler sur plusieurs semaines parce qu'il y a plusieurs volets. Alors, je vais débuter aujourd'hui et le titre de cet article, c'est « Mourir seul ». Le nombre de corps non réclamés a presque doublé au Québec au cours de la dernière décennie. Et cette journaliste a donc voulu savoir pourquoi. Un nombre alarmant de Québécois meurt dans la solitude la plus complète. Personne pour remarquer qu'ils ne sont plus de ce monde, personne pour s'occuper de leurs funérailles, leur rendre le dernier hommage. Ils finissent dans des fosses communes, dans l'indifférence presque totale. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, notre journaliste a remonté l'histoire de quelques-uns de ces défunts oubliés. Ici, nous allons l'appeler Richard le solitaire. Elle pénètre dans le couloir et l'odeur l'assaille. Ce couloir qui mène à l'appartement au troisième étage d'un immeuble de logements sociaux pour personnes âgées, tout près du pont Jacques-Cartier. Un relent âcre et collant qui semble s'incruster dans ma peau, s'accrocher dans ma gorge, qui me laisse les narines à vif. C'est cette odeur qui a inquiété les voisins et les a poussés à alerter les secours. Lorsque les policiers sont entrés dans le logement, Richard était mort déjà depuis 2 semaines. La dépouille de cet homme de 62 ans vient d'être emportée quand j'arrive sur les lieux, en compagnie des nettoyeurs chargés d'effacer les traces du drame. Achevé par une maladie coronarienne, il souffrait de plusieurs maux chroniques, apprendrai-je en lisant le rapport du coroner. À voir les éclaboussures rougeâtres qui souillent le plancher du petit 3 pièces, sa mort n'a pas dû être paisible. Il a lutté. Tout près du sol, gît le téléphone, son fil à demi englué dans une flaque coagulée. Peut-être Richard a-t-il tenté d'appeler Anne à l'aide dans ses derniers moments. Sa voisine, Paulette, dit « Il était bien malade. » Elle lui avait même dit « Si jamais vous vous sentez mal, je vais juste à cogner dans le mur. Je vais appeler quelqu'un. » Mais elle n'a rien entendu. J'étais des jours à y penser, ébranlée. S'il faut qu'il ait pâti une couple de jours tout seul comme ça avant de mourir. Et elle devient triste. De plus en plus de Québécois s'éteignent dans la solitude, symptôme d'une société où l'on vit toujours plus chacun de son côté. Lorsqu'aucun membre de la famille ne se manifeste pour prendre en charge la dépouille, celle-ci est déclarée non réclamée. Une étiquette administrative qui semble convenir davantage aux choses qu'aux êtres. Dans certains cas, on ne retrouve personne dans l'entourage du défunt. Dans d'autres, les proches survivent, mais refusent d'assumer la responsabilité des funérailles. Le nombre de corps non réclamés a presque doublé au Québec au cours des derniers 10 ans, selon les données fournies par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Bureau du coroner. Ce sont les deux entités qui gèrent ces cadavres retrouvés. Le Québec détient d'ailleurs le record canadien à ce chapitre, enregistrant plus de morts non réclamées que toute autre province, y compris l'Ontario. Le Québec dépasse de 29 % celui de sa voisine ontarienne. Or, l'État québécois se soucie peu du dernier repos des esselés. Ici, contrairement à d'autres instances au Canada et aux États-Unis, l'État est trop chiche pour offrir une sépulture digne aux gens qui meurent sans rien ni personne. Ils finissent presque tous inhumés, sans cérémonie, dans une fosse commune, sans une parole, une prière, pour les saluer, sans la moindre plaque qui les identifie, oubliés de leur vivant et anonymes dans la mort. Les deux employés de l'entreprise Dryco, qui s'attellent à nettoyer ce qui risque de l'agonie de Richard, sont couverts d'un survêtement de plastique, gants de caoutchouc, masques et tout le reste. Ils ont l'air des techniciens de laboratoire affrontant un dangereux virus. Maladroite et suffocant dans l'équipement protecteur que j'ai revêtu, je circule dans l'appartement sans trop savoir où mettre les pieds. Richard y avait mis du sien pour aménager un logis agréable, propre, rangé. Des bibelots sont disposés un peu partout. Dans le salon, il y a même quelques poissons rouges qui vivotent encore. Et dans trois aquariums, qui remplissent les lieux d'un glouglou insignifiant. Des figurines d'animaux en laiton forment un petit troupeau sur le manteau de la cheminée. Dans la chambre, il y a même un petit chiot en plus qui monte la garde sur le lit une place. Qui sait de quoi son quotidien était fait? Il vivait de l'aide sociale, souffrait de diabète, d'hypertension, d'alcoolisme. Il se nourrissait probablement peu ou très mal. Des boîtes de soupe aux pois, jus de tomate, 100 tasses dans le garde-manger. Le frigo, presque vide, ne contient que deux grosses bières, un sac d'oignons, du beurre d'arachide et quelques condiments. Sa voisine Paulette le voyait de temps en temps sortir se balader sur son triporteur. Quand il faisait beau, il partait de bonne heure et revenait juste le soir. Elle se souvient d'un homme gentil, courtois, qui lui avait fait don de deux chaises en fer forgé en pensant qu'elle pouvait s'en servir pour recevoir. Lui n'avait jamais de visite. Il avait l'air gêné. Tu lui posais une question, il répondait juste le strict nécessaire. Et Richard avait l'habitude d'écouter la radio ou de fumer de la Marie sur le balcon minuscule. Alors ils échangeaient quelques mots, de part et d'autre d'une cloison qui les empêchait de se voir. Un jour, pourtant, Richard a dû compter pour quelqu'un. Sur la commode, un tout petit cadre doré, en forme de cœur, abrite une photo fanée. Où deux personnes mariées en tenue d'une autre époque, arborant un demi-sourire, se tiennent par la main. Cette photo, c'était le 24 août 1974. Il n'avait pas 20 ans. Nous voici de retour et Francine va nous amener dans un texte « Si la Terre était plate ». Oh là là!
Oui, une question très sérieuse, mais qui va quand même alléger un peu de l'atmosphère. Votre texte était très touchant, Hélène.
Touchant et lourd, je sais. Ouais, merci.
Alors, c'est la chronique de Normand Baillargeon. Je doute, donc je suis dans le Québec Science de mars 2018. Il pose cette question ici, « La Terre était plate ». La question a beau être réglée depuis des siècles, elle ressurgit dans les cercles conspirationnistes qui ne savent plus par quel côté attaquer la science. Et le débat promet d'être ardu. Vous le savez, la Terre est une sphère aplatie au pôle. D'abord, on vous l'a dit à l'école, ce n'est pas en soi une preuve, vous en conviendrez. Ensuite, heureusement, il existe depuis l'Antiquité de solides arguments pour étayer la chose. Aristote invoquait notamment l'ombre que projette la Terre sur son satellite durant une éclipse solaire, lunaire. On peut aussi penser à ces navires qui s'éloignent et dont seuls les mâts restent visibles à l'horizon. Au fait que les phares sont toujours construits en hauteur, aux pendules de Foucault, à la circumnavigation, etc. Mais laissez-moi vous présenter les partisans contemporains de la Terre plate, les platistes. Ne riez pas. L'idée, semble-t-il, fait un retour. Il existe même un regroupement officiel, la Flat Earth Society. Pour les platistes, c'est une évidence. La Terre est un disque plat au centre duquel se trouve le pôle Nord. En périphérie, se dresse un immense mur de glace. Aucune donnée n'est à l'épreuve de leur argumentation. Le fait que l'on puisse aller en ligne droite de Pékin à Montréal et en poursuivant retourner à Pékin, c'est pas une preuve que la Terre est ronde. Voyager ainsi, c'est simplement suivre le trajet dessiné par un cercle sur une surface plane. Et ainsi de suite pour les saisons, l'alternance du jour et de la nuit, les constellations et tout le reste. Quant à ces photographies de la planète bleue prises par la NASA, elles sont évidemment truquées. Se confronter à de tels personnages est risqué. D'autant que le fondement de leur passionnelle croyance est très souvent religieux et que pour la préserver, ils évoqueront sans gêne des conspirations qui sont bien difficiles à réfuter. Alfred Russel Wallace Célèbre naturaliste anglais, co-découvreur de la théorie de l'évolution, l'a appris à ses dépens en 1870 au cours d'un épisode tristement célèbre de l'histoire du platisme. Cette année-là, John Hampden, riche héritier protestant, fervent platiste, lance un défi dans l'hebdomadaire Scientific Opinion. Il remettra jusqu'à 500 livres sterling, une très grosse somme pour l'époque, à quiconque pourra prouver que la Terre est sphérique. Mais cette personne lui devra ce même montant en cas d'échec. La communauté scientifique ne croit pas opportun de relever ce défi. Sauf Wallace, qui a grandement besoin d'argent. Il voit là une manière de faire d'une pierre deux coups. Pédagogie, en établissant publiquement une banale vérité scientifique. Financier, en renflouant ses coffres. L'expérience qu'il propose aura lieu sur le Old Bedford Canal, là où le plan d'eau rectiligne peut être observé sur une dizaine de kilomètres. Un bâton est planté au kilomètre zéro, avec un disque placé à une certaine hauteur au-dessus de l'eau. Un autre, de même, 5 kilomètres plus loin. Et un dernier, toujours au même niveau, au-dessus de l'eau, au kilomètre 10. Un télescope situé au premier point permettra d'observer les hauteurs relatives des trois marqueurs. Si la Terre est courbe, ceux-ci ne seront pas alignés. Dans sa mémoire, Wallace dessine ainsi ce qui, selon lui et selon Hampden, devrait être observé si on regarde dans le télescope. Le test a lieu le 5 mars 1870. Wallace est accompagné de son témoin, un astronome, et Hampden, du sien, un platiste. Le témoin de Wallace regarde dans le télescope et est formel. L'expérience donne raison à ce dernier. Le témoin de Hampden fait de même et saute de joie. La Terre est plate. Selon lui, le désalignement des marqueurs n'est qu'un effet de perspective. Après maintes péripéties, Wallace sera déclaré vainqueur. Mais des années durant, il sera harcelé par Hampden qui, refusant d'admettre le résultat, sera même emprisonné pour ses gestes. Encore aujourd'hui, l'affaire est invoquée par des platistes comme démontrant que la Terre est plate. La question reste d'actualité. Jusqu'où aller pour débattre avec pareils complotistes adhérant à des doctrines aussi délirantes? Je vous laisse y réfléchir, mais je soumets à votre attention un amusant conseil que donnait à ce sujet le mathématicien et philosophe Bertrand Russell, qui est décédé en 1970. Celui-ci a souvent croisé ce qu'il appelait des cranks, des excentriques. Un tel croit avoir réalisé la quadrature du cercle, un autre prédit la fin du monde, un troisième se pense la réincarnation de Jules César. Il en est venu à la conclusion que le mieux est de se dire d'accord avec leur thèse, mais en y apportant une nuance dont on pourra ensuite longuement discuter, sourire en coin. Russell écrit « Je réponds aux dévots de la grande pyramide de Gizeh en parlant d'adoration du sphinx. Aux dévots des noix, j'explique que les noisettes et les noix de Grenoble sont aussi dommageables que les autres aliments et que les vrais adeptes ne devraient manger que des noix du Brésil. La Terre est plate, c'est entendu, mais autour, le mur est fait de diamants et pas de glace, ce qui change tout. La Terre n'est pas exactement un disque. Elle est ovale, ce qui change tout. » Et ainsi de suite. « En gardant le sourire », nous dit Normand Baillargeon dans sa chronique « Je doute donc je suis » de Québec Science, mars 2018.
Fantastique. Quel texte amusant. Merci beaucoup, Francine. Merci beaucoup. Nous revoilà sur un thème un peu différent. Je vais continuer sur les centenaires que j'affectionne beaucoup. Je m'y dirige, alors voilà. J'ai ici un texte publié le 14 novembre dernier, mais ça a trait uniquement à la vie secrète des centenaires. C'était dans Médium Large. Les centenaires qui ont été ici interrogés, on parle ici de Claire Sigouin et Madeleine Rousseau, elles disent qu'elles n'ont pas de secret, il n'y a pas de secret. Elles sont soupçonnées d'avoir toujours soigné l'alimentation, évité le stress, pris le moins de médicaments possible. Alors, ces deux dames, toutes deux, âgées de 102 ans, prennent la vie un jour à la fois. C'est peut-être là qu'est la recette. En compagnie de Justine Latour et Marie-Noël Blais, co-auteurs du livre « Vivre 100 ans », en passant, livre que j'ai consulté, il est magnifique. Elles expliquent à Catherine Perrin pourquoi Expo 67 les a marqués et pourquoi elles préfèrent l'époque actuelle à celle du passé. Ah, ça, ma mère disait aussi la même chose. Après le déjeuner, je prends toujours une lampe de brandy. Juste un petit verre. Ça fait digérer, ça brûle les microbes. Déclare Claire Sigouin, qui d'ailleurs conduit toujours sa voiture et qui fréquente Facebook tous les jours. Plus rien n'est péché. Disons que ça a beaucoup changé, affirme Madeleine Rousseau-Berthiaume. Lorsque vient le temps de comparer le nouveau millénaire à l'époque de sa jeunesse, lorsque c'était des péchés partout. Aujourd'hui, il n'y a plus de péchés, on arrange tout ça comme on veut. Justine Latour et Marie-Noël Blais ont rencontré 11 centenaires québécois pour produire ce très beau livre « Vivre 100 ans », composé de photos et de textes décrivant l'univers de chacun de leurs sujets. Chaque rencontre nous donnait droit à avoir une sagesse, indique Marie-Noël Blais. Chaque fois, il y a une pépite, une révélation. On était toujours très exaltés quand on sortait d'une rencontre avec les centenaires. Justine Latour explique aussi que toutes les photos dans son livre sont en noir et blanc. Ça ramène à l'essentiel. On élimine beaucoup de parasites visuels. Ça amène à se concentrer sur le portrait et sur le regard. Je vais poursuivre avec un très beau texte sur les rides. J'ai des rides. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai découvert que j'avais beaucoup de rides autour des yeux, de la bouche, du front. J'ai des rides parce que j'ai eu des amis, j'ai ri, souvent, jusqu'aux larmes. Puis j'ai rencontré l'amour qui m'a fait essorer les yeux de joie. J'ai des rides parce que j'ai eu des enfants. Je me suis inquiété pour eux dès la conception. J'ai souri à leur nouvelle découverte. J'ai passé des nuits à les attendre. J'ai pleuré. Pleurer pour des personnes que j'ai aimées, qui sont parties, sans savoir pourquoi. J'ai veillé aussi. J'ai vu des endroits magnifiques, de nouveaux endroits qui ont eu tous mes sourires, mes étonnements. Chaque ride est une anecdote de ma vie, un battement de mon cœur. C'est l'album photo de mes souvenirs les plus importants. Je vous laisse sur ces belles paroles, ces douces réflexions. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup, Francine Neforget, de ces magnifiques textes.
Bien, merci à vous, Hélène, et on se revoit la semaine prochaine.
Absolument. Merci, Maurice, de nous avoir supportés à la régie. Hélène Bédard vous dit au revoir. À la semaine prochaine. Bien bonjour, nous sommes vendredi le 16 mars 2018, Hélène Bédard au micro et avec moi, ma collaboratrice, Madame Francine Forget.
Bonjour. Bonjour Hélène, vous allez bien ce matin?
Ah, c'est bon, c'est frais dehors, c'est froid, mais c'est bon. Mais
oui,
c'est, bon.
C'est ça pourquoi j'avais pensé qu'on était en février, mais là vous m'avez bien réalignée en arrivant, alors donc mars 2018, je vais m'en rappeler.
Parfait. Nous saluons notre Catherine Brunet qui n'est pas avec nous et qui sera la semaine prochaine. Et je salue à la régie M. Maurice, bonjour, qui va nous accompagner pour cette émission. Alors, nous allons vous présenter nos sujets. Francine, je sais que vous avez d'épatants sujets. Avec quoi allez-vous parler?
Beaucoup, beaucoup de choses. Je n'aurai pas le temps de parler. D'abord, de nouvelles applications, comme d'habitude, si on a le temps. Certainement parler du Li-Fi, Li-Fi, hein, c'est un peu comme le Wi-Fi ou le Wi-Fi, on sait trop comment ça se prononce en français. Et je vais commencer par une entrevue avec celui qu'on appelle le pharmacien.
Excellent, ah, toujours des bons articles. Pour ma part, ben, je m'accrocherai à vos textes pour essayer de vous parler de certaines choses, de centenaires, de repos, de quittinerie, puis de d'autres choses. Alors, on vous revient tout de suite.
Mmh.
Francine, je vous laisse aller avec le pharmacien.
Oui, Olivier Bernard, celui qu'on surnomme le pharmacien, persiste et signe, c'est-à-dire qu'il publie un troisième livre. Et dans ce contexte, il a accordé une entrevue à Marie Lambert-Chan dans Québec Science, mars 2018. Avertissement aux marchands de doute, Olivier Bernard, alias le pharmacien, est de retour avec un troisième livre. Et cette fois-ci, il s'attaque à la racine des faits alternatifs, les arguments bidons. Depuis la mode sans gluten jusqu'à la diète alcaline en passant par les cures à la base de jus, les médecines douces et les OGM, le pharmacien Olivier Bernard ne recule devant aucun sujet, si controversé soit-il. Depuis 2012, celui qu'on connaît mieux comme le pharmacien vulgarise la science véritable et déboulonne la pseudo-science avec humour et insolence sur son blog, dans ses livres et à la télé. Pour ses fans, il est le pourfendeur des fausses croyances et des mythes sur la santé. Aux yeux de ses détracteurs, il est un danger public majeur qui carbure aux polémiques et aux déclarations fracassantes. Les attaques au vitriol, il connaît ça. Surtout depuis son passage remarqué à l'émission « Tout le monde en parle », en novembre 2016. Un épisode difficile qui, entre autres, l'a poussé à écrire son dernier livre, « Le pharmacien 3, la Bible des arguments qui n'ont pas d'allure ». C'est publié aux éditions Les Malins. Comme le titre l'indique, Olivier Bernard s'est donné pour mission d'identifier les raisonnements fallacieux qui empoisonnent actuellement le débat public afin d'aiguiser l'esprit critique de ses lecteurs et ainsi devenir un pro de la riposte devant ceux qui disent n'importe quoi. Québec Science, comment est née l'idée de ce troisième tome qui relève davantage du guide d'autodéfense intellectuelle que de l'ouvrage pratico-pratique comme le sont les deux premiers livres? La réponse d'Olivier Bernard. Je suis le pharmacien depuis 2012. J'estime avoir accompli de belles choses, mais au bout du compte, j'ai le sentiment que mon travail de vulgarisation est toujours à recommencer. Prenez les cures à base de jus. Même si j'ai déjà expliqué tant et plus que les jus ne sont pas un moyen de détoxifier le corps, il suffit qu'une nouvelle tendance émerge pour qu'on me demande encore de démystifier le concept. Voilà pourquoi j'ai senti le besoin d'écrire un livre qui améliorerait les réflexes critiques des gens afin qu'ils puissent eux-mêmes voir les failles dans les faux arguments des tenants de la pseudo-science. Québec Science, votre livre tombe à point en cette ère post-factuelle. Réponse, je le souhaite. Le problème de la désinformation et du dénialisme scientifique dépasse le domaine de la santé auquel je me suis consacré jusqu'à présent. Ce n'est pas un hasard dans cet ouvrage. J'aborde aussi la religion, la politique et les changements climatiques. Pour la première fois de ma vie, je crains l'impact de la pseudo-science sur l'avenir de notre société. Certains mouvements idéologiques, comme les groupes anti-vaccins ou climato-sceptiques, sont beaucoup mieux organisés qu'ils ne l'étaient et véhiculent des informations en apparence très solides sur le plan scientifique. Par ailleurs, je remarque que de plus en plus de chercheurs disent n'importe quoi. Ils confondent leur point de vue avec l'état actuel de la science. Et ça me fait peur, parce que des individus leur font confiance en raison de leur réputation. Ces gens succombent ainsi à l'argument d'autorité. Une chose est présumée vraie, parce qu'elle est affirmée par une personne connue. Or, il ne faut pas se fier à une seule personne, même pas à moi. Question de Québec Science. Dans votre livre, vous expliquez plusieurs arguments douteux. Lesquels trouvez-vous particulièrement retors? Et le pharmacien de répondre, l'un de mes préférés est l'appel à la tradition. Si c'est utilisé depuis longtemps, c'est forcément bon. Cela implique toutefois deux erreurs de raisonnement. On présume que c'était vraiment bon à l'époque et que c'est toujours pertinent de nos jours. La technique dite de l'homme de paille est chère à mon cœur, parce que je la connaissais bien sans avoir de mots pour la décrire. En France, c'est un concept fréquemment utilisé, mais pas ici. C'est le fait de réfuter les arguments de quelqu'un sur la base de choses qu'il n'a même pas dites. Par exemple, le pharmacien est contre tout ce qui est naturel. Je trouve les biais cognitifs très intéressants, à tel point que je songe à écrire un livre entier sur le sujet. Ils surviennent lorsqu'on réfléchit de façon non rationnelle, ce qui nous amène à créer notre propre réalité. Les biais de confirmation en sont un exemple. On retient seulement ce qui soutient notre opinion et on rejette ce qui la contredit. Enfin, l'argument d'autorité me touche particulièrement parce que je le vis moi-même au quotidien. J'entends ou je lis des phrases comme « C'est le pharmacien qui l'a dit, donc ça doit être vrai ». C'est encore plus marqué depuis mon passage à « Tout le monde en parle ». Et ça, je n'aime pas ça. Désormais, la communication avec les patients est plus compliquée qu'avant. Ils n'ont plus confiance dans le système de santé. Alors, je poursuivrai cette entrevue après une pause ou après d'autres textes que vous nous lirez. Je rappelle que c'est dans Québec Science, mars 2018.
Rebonjour. Alors voilà, Hélène Bédard au micro. Moi, je vais poursuivre avec un très beau texte de Louise Latraverse et ça commence comme si. Ben, c'est décidé, je vais faire comme si. Comme si tout allait bien. Comme s'il faisait chaud, comme si le monde était beau. Comme si j'étais douce. Comme si la vie m'émerveillait. Comme s'il n'y avait pas tant d'horreur, de cris, de larmes. Comme si tout ce à quoi j'avais cru était vrai. Comme si la neige me réchauffait. Comme si tout n'était qu'illusion. Comme si tout était Rose Kennedy, sans la tache de sang. Comme si lorsque je prends mon café, j'étais le café. Comme si la colère qui m'habite était ma douceur régarée. Comme si mes cheveux blancs étaient ceux d'un enfant. Je veux faire comme si la vie était du cinéma. Comme si je jouais tous les rôles. Comme si aujourd'hui j'étais Liv Ullmann dans un film de Bergman. Comme si j'étais blonde comme Marilyn ou brune comme Audrey. Comme si je portais des talons hauts et je touchais aux étoiles. Comme si tout était permis. Comme si je vivais dans une maison de papier. Comme si mon jardin était à tout le monde. Comme si la lumière nous éclairait tous en même temps. Comme si dehors, je voyais en dedans. Comme si les enfants pouvaient jouer dans des carrés de chocolat. Comme si les fusils étaient à l'eau de rose et ne tuaient personne. Comme si les mères ne pleuraient plus jamais. Comme si la guerre était un jeu d'enfant. Comme si tout le monde était au courant. Je vais faire comme si la planète était verte, comme si l'eau bénite était bénite par des dieux bons. Comme si les nuages se figeaient et souriaient, comme si l'ombre disparaissait et la marmotte avec. Comme si ceux que j'aimais ne souffraient plus. Comme si l'amour ne partait pas en cavale. Comme si la beauté et la bonté appartenaient à tout le monde. Comme si quand le verre est à moitié vide, ben, il est aussi à moitié plein. Comme si je n'entendais plus toutes ces conneries. Comme si la pureté restait sans tache, comme si la faim était rassasiée, comme si les mots étaient réinventés par les poètes, comme si les imbéciles se taisaient à tout jamais, comme si les politiciens étaient justes et honnêtes, comme si le son de leur voix faisait éclater leur tympan en mille miettes, comme si toutes les filles du monde avaient droit au respect, comme si les hommes étaient bons comme du bon pain. Je vais faire comme si mon pays était un pays et non pas l'hiver, comme si je recommençais tout, mais en mieux. Comme si j'avais raison, comme si l'art était plus important que la bourse, comme si la chance passait et que tous ensemble on l'attrapait. Je vais faire comme si l'air était bon, comme si les « comme si » éloignaient les mauvais esprits, comme si en ouvrant les rideaux, le soleil m'aveuglait, comme si j'étais là au bon moment, comme si le bonheur n'était pas un leurre, comme si les remèdes guérissaient tous les maux, comme si j'étais naïve et née de la dernière pluie. Comme si mon nom rirmait avec espoir. Comme si j'étais là, même quand je n'y suis pas. Comme si je jouais ma vie. Ben, c'est décidé, je vais faire comme si. Je ne sais si vous êtes au courant, mais j'ai découvert 20 centenaires qui habitent la même résidence. Eh bien oui, cette année, il y a 9 pensionnaires d'une résidence pour aînés située dans l'ouest de Montréal qui vont franchir le cap des 100 ans. 11 autres sont déjà présents dans l'immeuble. Alors, ça va nous faire une vingtaine de personnes au-delà de 100 ans. Ils participaient dimanche à une fête d'anniversaire pour souligner leur longévité. Mais voici des statistiques. Année après année, le nombre de centenaires ne cesse de progresser. En 2016, on dit qu'il y avait près de 1800 d'entre eux qui avaient été comptabilisés au Québec. Mais dans 8 ans, les dernières projections nous montrent le chiffre de 5000 dans la province de Québec. Ce chiffre, soi-disant, exploserait en 2061 avec Statistique Canada et s'attend à ce qu'il y ait plus de 55 000 personnes âgées d'au moins 100 ans et plus au Québec. La résidence dont je parle, c'est la résidence Waldorf dans le quartier Côte-Saint-Luc, aura quant à elle, au total, comme je le disais plus tôt, 20 centenaires dans son établissement. C'est quoi le secret de tout ça? Bon, ici, bien manger, faire de l'exercice, explique Irène Klein, qui vient de fêter son 100e anniversaire au début de l'année. Pour rester en forme, Mike Levine, 101, joue quant à lui au quilles chaque semaine. Je ne suis pas un expert, mais je suis capable de jouer. Cependant, la vie n'est pas facile pour toutes ces personnes âgées qui doivent également composer avec la solitude. À cet âge, je n'ai plus d'amis, pas de famille, je n'ai plus personne, a reconnu avec une voix chevrotante Mauricio Friedman. Je suis le seul encore en vie. C'est très difficile quand je pense à ce que j'étais auparavant. Maintenant, je souffre, mais c'est ça la vie. Ce récent centenaire attend maintenant la prochaine étape. Tristement, il dit, je prie chaque fois Dieu pour qu'il m'amène avec lui, qu'il m'amène en haut. Pour moi, c'est suffisant, super suffisant. Face au vieillissement de la population, le gouvernement et l'ensemble de la société doivent s'adapter à cette nouvelle réalité, a souligné Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des aînés. Il faut s'assurer que dans les villes et villages, les aînés puissent prendre l'autobus, se déplacer, aller dans les commerces, où les allées sont adaptées aux marchettes, aux déambulateurs, a-t-elle détaillé en marge de cette célébration dominicale. C'était un texte de Olivier Bachand qui est paru dans ici, le Grand Montréal. Ça a paru la semaine dernière.
Une histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large, aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large. Aucun autre décor, aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien.
Françoise Hardy, la pièce Le Large.
Quelle douceur, cette pièce musicale. Très belle. Merci, Maurice. Je vais passer immédiatement le micro à Francine pour la suite du Pharmachien.
C'est bien ça, Hélène. Alors, je poursuis l'entrevue de Marie Lambert-Chan dans Québec Science du 16 mars 2008. On se rappelle qu'au cours de cette entrevue, vous aviez affirmé, entre autres, que l'homéopathie est une insulte à l'intelligence humaine et que c'est un bon jus d'orange pressé maison, c'est identique à boire un coke. Vos propos ont suscité de vives réactions. S'est-il passé dans les semaines suivant la diffusion de l'émission? Je ne pensais pas que mes propos feraient autant réagir, car c'était le reflet exact du contenu de mes bandes dessinées et de ma première série télé, Les aventures du pharmacien sur les ondes d'ici Explora. Mais je sous-estimais l'effet « tout le monde en parle ». Les deux semaines qui ont suivi ont été un tsunami. Sur les réseaux sociaux, j'ai reçu quantité de commentaires injurieux. Mais à la rigueur, je suis capable d'en rire. J'ai toutefois été profondément découragée par le niveau de déformation de mes propos, et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à écrire mon dernier livre. J'en ai entendu toutes sortes. Le pharmacien a dit que le sucre n'est pas bon, donc je n'en consommerai plus. Le pharmacien a dit qu'on peut faire boire du Coca-Cola au bébé. On a dit de moi des choses très malhonnêtes, que je n'avais aucune connaissance scientifique, que je voulais seulement vendre des médicaments, que j'avais une attitude de misogyne parce que je remettais en question la médecine traditionnelle fondée sur les connaissances essentiellement féminines, car pratiquées autrefois par les femmes. Au début, j'ai tenté de répondre à tous ces gens, puis j'ai arrêté. J'ai quitté le web pendant 2 mois. Après coup, j'ai compris que j'ai choqué la minorité bruyante des réseaux sociaux. La plupart des commentaires reçus m'ont plutôt démontré que beaucoup ont compris mon message. Ne craignez-vous pas de prêcher aux convertis? Olivier Bernard, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et sincèrement, je ne crois pas que ce soit le cas. Je m'adresse aux individus qui ont des doutes et des questionnements. Je n'ai aucune liste de faire changer, aucune intention de faire changer d'idée les anti, les contre, les purs et durs. C'est impossible de le faire tant ils sont convaincus d'avoir raison. Avec eux, on ne peut même pas s'entendre sur les faits de base. De toute façon, il s'agit d'une infime proportion de la population. Question de Québec Science. Pendant longtemps, les scientifiques ont été perçus comme ceux qui sauveraient le monde. Aujourd'hui, il est plutôt de bon ton de remettre en question leur travail, voire de nier leurs résultats de recherche, ce que vous rappelez dans votre livre. Cela vous décourage-t-il? Les gens ont accès comme jamais à l'information. Ils n'ont plus besoin des experts comme avant. Je le vois dans ma pratique. Au début de ma carrière, en 2004, les clients de la pharmacie étaient complètement dépendants de nous. Ils ne nous contredisaient jamais. Nous étions entièrement responsables de leurs connaissances, ce qui est assez lourd. Puis sont arrivés Facebook et le phénomène Dr. Google, c'est-à-dire l'utilisation du populaire moteur de recherche pour s'auto-diagnostiquer. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je pouvais avoir un véritable dialogue avec mes patients il y a 5 ans. Toutefois, un glissement s'est produit. Les clients arrivaient avec de plus en plus de fausses informations. Désormais, la communication avec les patients est plus compliquée qu'avant. Ils n'ont plus confiance dans le système de santé. Mais je suis persuadée qu'on peut atteindre un équilibre. C'est pourquoi je donne une formation professionnelle de la santé pour mieux discuter avec un patient qui arrive avec de fausses croyances. Quelle est votre méthode? En résumé, il faut d'abord écouter le patient et lui demander de préciser ses inquiétudes. Ensuite, il faut accueillir ses craintes avec empathie. Puis on reconnaît qu'il a raison, en partie. Ce point est très important, car c'est ainsi qu'on amorce le dialogue. En outre, il y a toujours un fond de vérité au doute du patient. Par exemple, devant ceux qui accusent Big Pharma de nous empoisonner, il faut reconnaître que l'industrie pharmaceutique a commis des abus et a manqué de transparence. En même temps, et c'est la dernière étape, on doit leur apporter de la perspective et leur rappeler que les compagnies pharmaceutiques ont commercialisé des antibiotiques et des médicaments qui ont sauvé des millions de personnes. Les professionnels de la santé n'ont plus le choix d'adapter ainsi leur discours. Un médecin ne peut plus dire à son patient « Je suis le boss, tu vas m'écouter. » Ça ne marche plus. Question de Québec Science, vous travaillez toujours comme pharmacien à temps partiel. Derrière le comptoir, comment conciliez-vous votre personnage public du pharmacien avec votre rôle professionnel? Le pharmacien n'est pas un personnage, c'est moi. Au contraire, à la pharmacie, je suis plus inhibée. Là-bas, je suis obligée de me priver d'une forme de communication qui, à mon avis, est plus efficace. J'aurais envie de tutoyer mes patients, de leur poser des questions sur leur vie, de prendre 15 minutes avec eux dans le bureau de consultation. Mais je ne peux pas car je n'ai pas le temps. Le modèle des pharmacies s'américanise. On doit voir beaucoup de monde alors que les ressources se réduisent. J'aime travailler en pharmacie, mais peut-être qu'un jour, je me vouerai exclusivement à la communication et à la formation. Alors donc, une entrevue avec le pharmacien menée par Marie Lambert-Chan dans le Québec Science du 16... Non, le Québec Science de mars 2018. J'ai fait un lapsus tantôt en passant au 16 mars, mais évidemment, c'est de mars 2018.
Très drôle. Alors voilà, Hélène Bédard au micro. Je vais donc poursuivre sur la lancée des centenaires, mais avant d'y arriver, j'ai ici un beau texte qui vient de la revue. En fait, c'est un nouveau journal qui s'appelle « Les belles années ». La retraite, un repos bien pensé. Alors oui, peut-être que c'est le chemin pour devenir centenaire. Une retraite doit être bien planifiée pour ouvrir la voie à de nouveaux projets, à des expériences inédites et aussi au bonheur, quelquefois. Prendre sa retraite n'est pas facile pour tous. Parfois, quitter le monde du travail peut mener à la solitude car le réseau social, limité aux collègues, ça s'effrite. Comment faire pour ne pas tomber dans ce piège de l'isolement? Pour Marie-Paul Dessin, PhD de coach de vie et auteur, il importe d'aborder le retrait de la vie dite active avec réalisme, sans lunettes roses, afin de s'assurer une retraite sereine et heureuse. Donc, prends le temps de réfléchir. Madame Dessin insiste sur la nécessité pour le nouveau retraité de prendre le temps de s'arrêter. Elle parle d'une période neutre au cours de laquelle on se repose, on se dépose et on explose. Au-delà de la rime, l'enjeu est sérieux car il s'agit de faire le point de ce que l'on désire faire pour les années à venir. Durant cette période, il y a des pièges à éviter afin de ne pas se laisser aller. Elle recommande, entre autres, de prendre sa vie en main pour contrer le plus grand danger, c'est-à-dire l'isolement. Continuer de se lever tôt, à l'heure fixe. Ne pas laisser passer ses journées devant la télévision. Faire de l'exercice, faire attention à soi, sa consommation d'alcool ou de nourriture. Prendre soin des autres. Forcer la communication, briser la routine. Elle encourage le nouveau retraité à se trouver une activité de transition. Ce qui ne veut pas dire se lancer dans le bénévolat tous azimuts. Cette période neutre doit d'abord permettre de faire l'inventaire de ses champs d'intérêt, de mettre au point un plan d'action. Cela peut passer par la découverte de ce qui se passe autour de soi, c'est-à-dire les ressources disponibles du quartier, les cours universitaires, les ateliers, les activités sociales ou culturelles offertes, etc. La liste peut être longue. Dans son livre « Quoi faire à la retraite », Marie-Paule Dessin invite le retraité à faire une introspection pour donner un nouveau sens à sa vie par l'intermédiaire de questionnaires. Les réponses aux questions permettent afin de mieux se connaître. Quant aux retraités qui manquent de motivation, elle croit que le fait de s'inscrire à un atelier portant sur la retraite serait une bonne façon de commencer à réfléchir sur un plan d'action pour une agréable retraite. Un grand merci à Marie-Paule Dessin, PhD, auteure, conférencière et coach, qui a généreusement alimenté cet article paru dans les belles années de février 2018. Alors, nous quittons pas tout petit moment. Restez avec nous pour la suite des émissions Les Voix de service, tout de suite après cette pause.